bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Original avec Leïla Kadoboudali, Marina Rollman. Tout à l'heure, il y aura Tanguy Pastureau. Déjà Daniel Morin.
Bonjour Marina.
Albert Algou.
Bonjour.
Et notre invité, Monsieur Florent Pérez.
Bonjour.
Bonjour. Tout va bien, Florent ?
Très bien, je suis très heureux d'être ici.
Donc, on est ravis de vous accueillir. Dans quel état vous êtes ? Parce que vous n'arrêtez pas. Il y a cette série sur M6 dont on va parler qui passe ce soir. Il y a le théâtre tous les soirs au théâtre Édouard VII. J'ai eu à la fois la chance de vous applaudir au théâtre. Oui, pour le prénom avec Jonathan Lambert, Marie-Julie Baupe qui est juste dinguissime aussi, Sébastien Castro, enfin, joli casting, Lilou Fogli. Et puis, ce soir, donc, Papa ou Maman avec Émilie Caen, entre autres. On va en reparler de toutes ces histoires. Mais d'abord,
vous avez reçu un texto, je crois.
Absolument.
Non, je vous le dis comme ça.
Si tu veux prendre, si tu veux lire, mais dis, vas-y, tranquille.
C'est pour confirmer,
vous voulez que je vous
lise, s'il vous plaît.
Le dépanneur arrive dans 45 minutes.
Ah, c'est une bonne nouvelle.
C'est un message codé. C'est un message codé, non, à mon avis.
C'est son premier, son prochain film porno qui est produit. Le dépanneur arrive dans 45 minutes.
Ma voiture électrique est en panne.
C'est pas vrai, parlons-en.
Si.
Ah, les smart électriques. C'est plus fiable.
Elle est en panne, ce qui fait que tous les dépanneurs ne veulent pas venir. Les voitures électriques.
Oh, le nom de dépanneur.
Mais non, mais j'y pourrais. Ouais, ouais. Allons-y.
Oui.
Qu'est-ce qu'on fait là ?
L'interro.
Une interro sur Florent Père. Eh ouais. Florent Père a suivi sa scolarité dans une école de sport études. Mais dans quel sport exactement ?
Le ski nautique.
Oh ouais, joli.
Wow. On a bossé.
Wow. Ah non, qu'est-ce que c'est ça ? Non, c'est n'importe quoi.
Bonne réponse. Vivant que le dépanneur arrive.
Ski nautique.
Eh oui,
mais qu'est-ce que c'est?
Extrême limite, quoi.
Mais
c'est
non, mais
série.
J'étais juste à côté. J'étais juste à côté de là où il tournait Extrême Limite, à Saint-Raphaël.
Mais ouais.
Mais bien sûr. Et mon entraîneur était dans le générique d'ailleurs du. Il avait doublé un des acteurs du. Bah, ski nautique, voilà. C'est.
Et vous étiez fan de Thierry Martin,
c'est Patrice ça Martin.
Patrice Martin, pardon, ouais. Qui était le plus grand champion que l'on ait jamais eu en ski nautique.
Ouais, et même, je crois que peut-être plus maintenant, mais pendant longtemps, ça a été le champion le plus titré, tout sport confondu.
C'est ça.
Maintenant, il avait la luge nautique.
Ouais. Il est un peu plus vieux. Non, mais il avait 32 titres de champion d'Europe, 4.
Non, mais il gagnait tout.
Tout. Puis ah il a commencé à 9 ans. Tout, donc
ah ouais, ouais, il était incroyable ce gamin.
Très fort.
Et Ted Royan.
Le ski nautique, vous continuez de pratiquer. c'est un sport qui. Je sais pas, c'est pas. C'est,
je sais, c'est, ça c'est fait
pas
Club Med.
C'est pas un peu. Non, c'est pas très démocratique déjà. Il faut.
Il faut de l'eau.
Il faut un bateau, ça consomme. Voilà, c'est pas un sport qu'on peut faire facilement.
Il suffit de traverser la rue, tu trouves un bateau.
Non, mais c'est vrai. Puis c'est pas écolo. Je le referai moins, j'en ferai moins maintenant.
C'est
mais à l'époque c'était moins la question. Mais par contre non, en revanche c'était un peu plus démocratique quand c'était pris en charge par la fédération et tout ça. C'est pour ça que j'ai pu en faire d'ailleurs.
Et parce vous avez fait de la compétition ?
Tout à fait. J'étais pas très très fort. J'ai eu un petit niveau national, on va dire voilà. Mais la structure dans laquelle j'étais à Saint-Raphaël, c'était un Pôle France, donc c'était rythme de sportif de haut niveau pendant 8 ans.
Et alors la vie de sport-études ski nautique. Pardon. Hein.
Non,
c'est genre le matin je fais école et l'après-midi plage.
Je fais ski nautique. Ah non, alors c'était pas sur la mer, c'était sur un plan d'eau artificiel qui avait été creusé par la fédération. Parce que ça demande le ski nautique demande des infrastructures, des bouées, des slaloms, des pas de vagues et
ouais,
tout
et
ça.
Et puis l'eau est calme, mieux c'est. Ouais, c'est ça.
Exactement. Ouais. Et donc non, c'était pas à la mer, mais après bon, ça a fait. Le sport études était dans 84 hectares de pinèdes, toutes les chambres avaient vu mer. Ça a été des années difficiles hein, où j'ai pris sur moi. Non, mes parents me forçaient, je voulais rentrer tous les week-ends. Non, tu restes là-bas au bord de la mer, et qui nous emmerde pas.
Vous étiez pancu, comme on dit, pensionnaire. C'est
tout
ça
à fait. Ouais, ouais. Donc matin lycée pancu, et après-midi.
Pancu. Ouais, pancu. Pancu. Ouais, moi aussi j'étais pancu. Non, pancu. P-E-N-C-U.
Pancu
pour synthétiser pensionnaire.
Parce qu'après j'étais longtemps plan cul, mais alors ça n'a rien à voir.
Attends, je comprends le pan. Je comprends le pan de pensionnaire, mais le cul pourquoi ?
C'est la première fois que tu comprends pas le cul.
Oui. Pourquoi pancu ?
Mais non, mais je sais pas. Même dans le sud, moi je disais ça. T'es pancu, t'es pas pancu.
Bien sûr.
Il y avait aucune. Il y a pas d'explication. Merci.
Non,
c'est juste sinoche.
Quand j'ai besoin d'une réponse, je m'adresse à quelqu'un d'autre.
Il n'y a aucune insinuation
sexuelle. Non, mais justement, c'est pour ça que je demande pourquoi le mot cul, pourquoi ça ne serait pas pan-pan.
On l'a perdu.
Allez, la crédibilité qui vient de tomber.
C'est
là.
Fini, c'est bim. N'importe quoi.
Galilée, là, on va prendre un calva.
On est en train de la perdre. Quand les auteurs du prénom...
Je crois
on a trouvé la soirée qu'on va organiser. quand les auteurs du prénom l'ont appelé pour reprendre la pièce au théâtre Édouard VII, où se trouvait-il ?
Aux toilettes.
Alors, c'est un lieu incongru, mais ce ne sont pas les toilettes, non.
Dans un moyen de transport.
Oui.
Un métro. Train.
Oui. Oh, joli. Oh, bah, je vais accepter. Ouais.
Merci.
Carrément. Dans le train, mais... vous avez un coup de téléphone des auteurs du...
Non, même pas, ils étaient là.
Ah, alors, il faut nous expliquer, alors.
Ben, je tournais Papa ou Maman, et ça faisait une semaine ou deux qu'on tournait, et le week-end, Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte m'appelaient en disant, on a vu les
Rushs. Qui sont les co-auteurs avec Eliane
Exactement.
Montagne.
Ouais. Qui sont les auteurs des films et qui ont dirigé l'écriture de la série, mais la directrice d'écriture, c'est Eliane Montagne, avec Judith Havas et Thomas Mansuy. Et chaque week-end, Alexandre et Mathieu m'appelaient en disant, on a vu les Rushs, c'est super, mais on sent que t'es un petit peu sage, on te connaît, vas-y, n'hésite pas. Et moi, j'avais peur d'en faire trop.
Genre, donc lâche-toi, quoi.
Un peu, voilà, lâche-toi. Donc, à force de me dire de me lâcher, je me lâche. Et le jour où je me lâche, ils sont là, sur le tournage. Et puis, dans l'après-midi, ils me font, tu rentres par le Thalys de 16h15? Je dis, oui, on se voit? Ouais, d'accord.
Et puis une heure c'est après, quoi un plan Thalys?
Tu rentres vraiment par le Thalys? Parce qu'il faut qu'on se voit. Oui, d'accord. Puis 3-4 fois. Donc je me dis, je vais me faire engueuler, je me suis trop lâché. Et quand on rentre dans le Thalys, bon, rendez-vous au wagon bar, hein, dans 5 minutes, parce qu'il faut qu'on te parle. Oui, d'accord. Donc j'y vais avec mon carnet de correspondance, hein, vraiment. Je vais chez le CPE, quoi. Je vais me faire gronder, pan-pan, cucu. Et ils commencent leur phrase par on remonte le prénom en septembre. Donc là, j'ai failli m'évanouir. Je dis ils peuvent pas finir leur phrase par
on adore. Est-ce que veux-tu? Ouais, voilà, veux-tu en voilà, être.
On trouve que tu serais un Vincent Larcher super. Donc je me suis évanoui. Je dis laissez-moi réfléchir. J'ai réfléchi 2 minutes et j'ai dit ok.
C'est étonnant que ce soit les auteurs, généralement, sont les metteurs en scène qui font les castings des
ouais,
pièces.
Mais oui, tout à fait.
Bernard Murat, en l'occurrence. Ouais.
Tout à fait. Qui, bon, alors Mathieu Alex lui avait parlé de moi. Je crois qu'il me connaissait de très loin ou même pas. Et on a fait une lecture. Il avait vu je crois qu'il avait vu mes essais de Papa ou Maman. Et puis il a dit ok. Voilà, un très beau cadeau.
Belle histoire, belle histoire. Lorsque... Faut que je reformule la question, pardon.
Attention.
Juste avant de monter sur scène, quel petit geste intime fait Florent Père?
Il sera juste. Ouais.
Non.
Bah quoi?
Moi j'étais sur remettre en place des choses.
Non.
Il touche les parties du metteur en scène.
C'est intime, c'est ça?
Ouais, c'est perso.
C'est religieux.
De croix?
Alors,
il se signe
un doigt dans l'oreille.
Non.
Un doigt dans l'oreille.
Non, c'est quelque chose que l'on peut éventuellement faire, je sais pas, dans sa salle de bain. Ou...
Il chante.
Il se lave les dents.
Non.
Ah, il chante.
Ah, il regarde s'il a rien dans les dents.
Du parfum.
Il se met parfumé.
Oui, Daniel Morin.
Alors là, je vais vous surprendre tous. Je pense qu'on peut l'accorder à Lila.
Non.
Il se met du déo.
T'es classe.
C'est beau.
Attends, c'est louche parce qu'il va me demander un truc après. Je pense qu'il y a Anguille sous roche.
T'as vu, on a même
des applaudissements. On a jamais entendu ça.
Des applaudissements enregistrés.
Première fois que je les ai.
Ah oui, je l'ai trouvé très propre.
Ils sont France Inter. Même le public là se dit mais qu'est-ce que c'est?
Oui, des gens direct, c'est un public qui a vraiment mis de la crème sur ses mains, qui a des petites crèmes.
Ouais. Non, qui a plus que des os et pas de peau. Écoute bien, ce sont des os qui s'entrechoquent en fait.
Ouais. C'est un public arthrose.
Ce parfum est le parfum de votre maman.
Oui, enfin que ma maman m'offre, oui, pas.
Oui. C'est le choix de maman.
Exactement.
Il paraît que vous portez des vêtements de votre mère aussi pour les dernières.
Particulièrement, oui, une culotte. Enfin, je vous explique.
Oui.
Non, mais il y a quelqu'un qui peut me l'offrir. Alors maintenant, je laisse faire ma sœur aussi un petit peu de temps en temps. Et c'est trois petits, parce qu'il sent il n'a pas de pouvoir de porter chance si c'est pas ma mère qui me l'a offert. Et donc trois petits sprays dans le cou comme ça, comme trois petits bisous.
Oh, c'est mignon.
Et je fais ça avant de monter sur scène, mais si j'ai un casting important, si j'ai une émission de radio importante, par exemple, là, bon, bah, je me suis parfumé.
Qu'est-ce qui se passe si votre femme vous offre un parfum et qu'elle devient concurrente de parfum vis-à-vis de maman?
Ouais. Bah là, bac à sable, et elles se battent. Que la meilleure gagne.
Qu'est-ce qui mettait la pression à Florent Père lors des compétitions sportives et qui inversement le pousse et le transcende sur scène?
La présence de
la
sa
peur,
femme.
Non, oui.
Le danger.
Ouais, le trac, ouais, ouais. C'est ça.
C'est vrai.
C'est ça. Ah oui. C'était, vous étiez quoi, tétanisé dans le monde du sport?
Ah oui.
À ski nautique ?
Ah oui, bah, à ski nautique et même tout. Tout c'est-à-dire comme j'étais dans une structure très, une très belle structure, donc il y avait des tas d'infrastructures de sport.
Qui était quoi, très exigeante ?
Bah oui, mais on pouvait, par exemple, je pouvais faire un petit match de basket avec les copains en fin de journée juste pour se détendre. On faisait un concours de lancer franc. Je pouvais mettre 20 lancers francs d'affilée. Vous me disiez, on joue un coca. Ah, je me mettais à trembler et je mettais tout à côté. Et en, je vais même vous faire vous raconter une petite anecdote.
S'il vous plaît.
Lors d'une compétition de saut, donc en ski nautique, ouais. J'ai fait pipi dans ma combinaison de peur.
Ah ouais, donc vraiment.
À cause de la pression, je voulais à tout prix battre mon record. Et puis j'ai fait 3 petites gouttes de pipi.
Un peu comme, comme Albert tous les jours quand il vient faire ici, faire l'émission.
Ouais, ouais, ouais.
Ça va? Les petites gouttes de
pipi. C'est mon côté gilet jaune.
Mais non.
Non, caleçon jaune plutôt.
Ah, ça me dégoûte.
Un jour, sur scène, Florent Père jouait avec un déambulateur, mais que lui est-il arrivé?
Il est tombé.
Il est tombé du déambulateur et s'est vraiment fait mal.
Il s'est fracturé quelque chose.
Ouais, exactement. Mais
péter le tendon d'Achille.
Ouais. Une douleur, ça. Pour l'avoir eu, c'est un truc de dingue, ça. Ouais.
Le déambulateur?
Non, le tendon d'Achille. Ça pas encore.
Ça attend.
Ça fait super mal.
Ça fait mal. En plus, comme c'était un sketch, je jouais un gars du cirque à la retraite, donc il faisait des numéros avec son déambulateur, c'était dans l'émission de Laurent Ruquier, et au moment où je me blesse, tout le monde pense que c'est le personnage qui a mal.
Qu'est-ce qu'il joue bien, regarde comme
il pleure, regarde, il transpire bien.
Regarde, il saigne, il saigne. Il est hyper balèze.
Et j'ai assez vite compris, d'abord j'ai cru que quelque chose, j'ai senti un coup, donc je me suis dit tiens, il y a le boîtier du micro qui est tombé sur mon tendon d'Achille.
Ah, oui. Non, parce que ça casse.
Et quand j'ai vu le pied un petit peu pendouillant comme ça, je suis ce que je voilà.
Ce qui est fou, c'est que d'entendre votre description, ça me refait mal.
Ah oui. Tu veux que je la raconte
encore? Non, ça va aller, merci. Donc Florent Père, vous jouez au théâtre tous les soirs et Papa Maman, c'est ce soir adapté donc des longs métrages de Martin Bourboulon.
Oui.
Qui avait déjà été écrit par ces mêmes auteurs. Alors c'était Marina Foïs et Laurent Lafitte qui tenaient les rôles principaux. Vous avez vu ces deux films, j'imagine, pour préparer la série, même si c'est pas exactement la même chose. Hein. On est dans le même.
Non, j'ai pas vu les films pour préparer la série. Je les avais vus beaucoup parce que déjà je les avais adorés. Puis quand j'ai passé les castings, bêtement, on re-regarde les films pour se dire ah ils vont certainement vouloir la même ambiance, tout ça. Et puis bon, et en fait on se rend compte assez vite que ils ont pas choisi. Les personnages sont pas les mêmes. Donc ils n'ont pas choisi des acteurs qui se ressemblaient, c'est-à-dire moi je ressemble pas du tout à Marina Foïs.
Émilie ressemble un peu à Laurent Lafitte.
Il y a un petit air. Si vous la prenez le soir, qu'elle s'est pas rasée, effectivement, dites, tiens. Non, mais les personnages sont pas les mêmes.
La phrase elle est dingue. Tu la réécouteras. Elle est juste.
Ça y est,
elle est dingue.
C'est honteux. Vous jouez à titre ici ou
Là, t'as le best-of, là. En une phrase. Donc, Émilie Camp, que l'on embrasse au passage, si elle nous écoute. Mais elle a beaucoup d'humour, heureusement. Il y a également Marie Narbonne, Charlie Pollet et Nicolas de Crolly. Là, ce sont les enfants, les trois enfants de la famille. Ouais. Évidemment, Fanny Cottençon. Alors là, mais elle est dinguissime, Fanny. J'adore sa voix, son jeu. On l'a reçu là, il y a pas longtemps. Enfin, bon, on l'embrasse. Elle est donc mariée. Enfin, c'est votre maman dans la série.
La belle-mère.
Exactement. C'est la mère d'Isabelle et le papa étant joué par Jean-Henri Compère. Oui. Et c'est là où tout part en vrille dans cette plus que dans le film encore, parce que ce sont les problèmes amoureux aussi bien des beaux-parents que du couple que des enfants.
Le fait de la série, c'est-à-dire d'avoir 6 épisodes de 52 minutes par rapport au film,
il faut densifier quoi.
Ça laisse beaucoup plus de temps, donc ça permet d'étirer les situations de manière plus importante et de développer les personnages secondaires et effectivement comme mes beaux-parents qui essayent enfin, qui ont une vie qui sont très modernes, on va dire, très libres.
Ce sont les plus modernes.
Exactement, c'est les plus modernes que nous.
Les plus rock'n'roll.
Voilà, rock'n'roll, c'est exactement ça. J'ai mon frère aussi qui est joué par Sébastien Pierre, qui est très très drôle,
Bernardo.
Bernardo, qui fait un très bon duo aussi avec ma maman.
C'est un Bernardo, mais qui est digne de celui de Zorro, parce que lui s'exprime, mais il comprend tellement rien.
Physiquement, il a quelque chose à Bernardo.
Mais c'est un effet. Le mec qui ne comprend rien.
Jamais rien.
Ou qui prend tout au premier degré.
Et puis celle qui est
génial, c'est aussi Eye Aïdara.
Super, elle qui est la meilleure amie du couple, donc qui se retrouve prise.
On avait vu dans le sens de la fête
le
aussi.
Le sens de la fête, qui a des problèmes de couple, elle aussi.
Aussi, parce qu'elle, c'est la célibataire invétérée qui veut jamais se caler, qui a peur, en fait, de se caser, et qui préfère être seule et se taper des mecs et faire la fête et tout. Et qui est un peu notre avocate, quoi, parce que malgré elle, parce qu'elle est prise entre ses deux amis qui sont en train de se séparer, qui la prennent systématiquement à partie ou qui lui demandent de prendre parti justement. Donc effectivement, tous les personnages autour de la famille sont encore développés, même existent s'ils n'existaient pas dans les films.
Donc il y a toutes les amours possibles dans cette série, que ce soit ceux des parents, des enfants, des adolescents, ceux qui en veulent beaucoup, ceux qui sont timides, qui se cherchent, et puis même dans les ruptures, il y a toujours une trace d'amour
dans Isabelle et César, nos personnages, papa et maman, qui se séparent, on se dit bien que le temps qui passe à élaborer des plans pour nuire d'une manière ou d'une autre à l'autre, passer autant de temps à ça, c'est qu'on a beaucoup d'affection pour l'autre, qu'on a du mal à le quitter. C'est ça qui est très joli, c'est que ils sont hyper attachants dans leur guéguerre. Alors des fois, ils vont très très loin. Ça, c'est vraiment le point commun avec les films, c'est qu'ils ont cette logique et cette folie là, c'est inarrêtable. C'est-à-dire quand ils commencent une engueulade,
c'est nos limites.
S'il faut aller jusqu'à brûler la maison, ils le feront.
Et ensuite,
ils
regardent rose.
C'est exactement ça. Voilà. Ouais. Mais quand il y en a un qui a la sensation d'être allé un peu trop loin et d'avoir blessé l'autre, alors il en est peiné. Et c'est là que celui d'en face décide.
Se venge.
Voilà. Donc ça ne s'arrête jamais. Et les vrais adultes dans la série, ce sont les enfants.
Plutôt les enfants, oui.
Ils sont hyper raisonnables.
Il y en a un, c'est Mathéo, joué par Nicolas de Crolly. Ouais. Qui, alors lui, il est scientifique, il connaît tout, il résume tout. Et vous avez même dit dans une interview qu'il était vraiment comme ça, le comédien dans la vie.
Bah oui, moi avant que je rencontre Nicolas, quand je lisais le personnage de Mathéo, je dis putain, le gamin qui va jouer ça, il y avait des pavés hyper scientifiques et tout, puisque le gamin est un télo. Je dis putain, il va falloir qu'il s'apprenne tout ça et qu'il le joue de manière naturelle, ça va être compliqué. Moi, quand j'ai rencontré Nicolas, je me suis rendu compte que les textes n'étaient même pas assez bien écrits pour lui. Il est exactement Mathéo, quoi. C'est-à-dire que entre les prises, il venait me parler de politique, de trucs comme ça. D'abord, moi, je comprenais rien.
Alors qu'il a quoi, 14-15 ans?
Ouais.
Ouais, c'est ça.
Donc toutes les tirades qu'il avait, les longs pavés de textes sur la physique quantique, c'était pas de problème pour lui, quoi.
C'est puis, à 21 ans, pardon.
Et puis la petite dernière aussi, qui est un peu mariage pour
Lily.
Tous.
Ouais. Oui. Lily, ouais. Alors elle est pas comme ça dans la vie, mais.
Justement, on va en parler, on va même laisser le père Albert en parler dans quelques instants, mais je voulais juste te dire que c'est à 21h ce soir sur M6, papa ou maman, et ça va cartonner, père Albert.
Eh ben, écoutez, mon cher Minguet, je sais que eu égard à la conception traditionnelle que je me fais de la famille, je sais que vous vous attendiez à ce que je ne souhaite à ce point le succès de papa ou maman.
Oula.
Eh bien, détrompez-vous.
Ah oui.
Même, c'est ce qui me gêne dans le titre de cette série, c'est la conjonction « ou papa ou maman ». Conjonction qui sépare plus qu'elle ne coordonne. Vous voyez, la grammaire et la morale peuvent faire bon ménage. Mmh. Et même c'est juste préféré que cette série s'intitule « Un papa, une maman, un papa, une maman ». Eh bien, je souhaite que papa ou maman connaisse une audience record, due bien sûr au jeu des comédiens, dont l'excellent Florent Père, coucou Florent, qui est vraiment impérial en César. Impérial en César. Moi aussi, vous voyez, je peux faire dans l'humour. Mais soyons sérieux. Parmi les comédiens et les comédiennes de cette série, je voudrais évoquer, on l'a juste fait, mais trop rapidement, la jeune Lily, incarnée par la petite Charlie Paulet, la fille cadette de César et d'Isabelle Mendès. Alors pourquoi Lily?
Non, c'est la Benjamine, c'est la petite.
Oui,
dernière.
La Benjamine, pardon, vous avez raison.
Je vous en prie.
Parce qu'elle est la seule dans cette famille déglinguée, désinguée, déboussolée, à faire ses prières du soir et à se préoccuper de l'heure de la messe du dimanche.
C'est vrai.
Car que dit-elle, Lily? Alors, permettez-moi de la citer, deux points et j'ouvre ces guillemets. Le divorce est un péché mortel, la fin de la famille. Comme la vérité sort de la bouche des petits nienfants, et comme je suis un grand nienfant, je serai franc. Si je souhaite que papa ou maman connaisse une audience d'enfer, c'est pour que cette vérité soit entendue. En tout cas, mieux entendu que Jenby, notre rédac chef, peut l'être par vous, Nangui. En effet, quand il vous a demandé, juste avant l'émission, je le cite, « Oh mon maître, vous avez vu papa ou maman? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton père ou de ta mère? Mais on va recevoir père dans 5 minutes. Mais bon Dieu, lâche-moi avec ton père et passe-moi ta fiche. » Voilà, cher Florent Père, comment se prépare la bande originale. Dans l'impiété, l'apologie de la décomposition familiale, la négligence et le mépris pour l'invité. Bonne émission malgré tout.
Merci, Albert.
France Inter. Nagui. La bande originale.
On vient de parler de la petite qui est plutôt mariage pour tous. L'aînée, elle, c'est une vraie filou. Elle a compris comment faire passer les plats quand il y a un souci avec sa théorie des 3 C.
Les 3 C,
vous
tout
vous
à fait.
Vous vous souvenez
oui.
De...
Alors, c'est Marie Narbonne qui interprète le rôle.
Qui est excellente. Alors, il faut dire que les trois enfants, c'était leur premier tournage à eux trois. Et ils ont été bluffants de
Marie Narbonne, Charlie Paulet et Nicolas de Crolier. Charlie étant la fille.
C'est
Charlie
quoi les 3 C?
Alors, les 3 C.
Putain, je me souviens plus de la définition, par contre. Je sais qu'elle se trompe parce que le 3e C,
c'est sincérité.
Sincérité, voilà.
Le compliment, c'est la méthode
culpabilité,
en fait.
Oui, culpabilité, compliment, sincérité, voilà. Et donc elle me coach pour que.
Il y a une scène très drôle, oui.
Oui, ou pour que je m'excuse auprès de ma femme. Donc d'abord culpabilité, je suis désolé, c'est ma faute. Sincérité, je t'aime, t'es une femme formidable, mais je fais ça avec mon frère.
Et qui prend tout au premier degré, il pense que c'est pour lui.
Il croit qu'il est une femme déjà. Et puis finalement, c'est ma fille qui me le refait. Mais, oui, c'est la vraie ado filou. Elle a 12 idées à la seconde pour essayer de gagner de l'argent en loose day.
Pour subventionner son bac quand même.
Oui,
c'est ça l'idée.
Fait.
C'est pas juste pour aller dépenser de l'argent.
Pas
c'est
du tout.
Elle a la
non,
suite
non.
dans les idées.
Oui, oui. Non, elle est assez maline.
Bon, jusqu'à vendre un chat.
Bleu.
Le timbre.
Chat bleu. Non, mais tous les personnages, la voisine d'en face chez qui vous allez finir par héberger, et la maman aussi dans la série, puisqu'on est dans la famille Mendes.
C'est une vraie portugaise d'ailleurs.
C'est vrai.
Oui, Catarina.
Vous avez eu des fous rires avec sa manière de prononcer certains mots.
Oui, j'en ai eu un. J'en ai eu un mot. Non, parce qu'en fait. On a une idée de l'accent portugais enfin qui existe hein, mais selon les régions nous quand on veut faire un portugais on met des cheux partout on fait bonjour comment ça va je vais pas sur
voilà ça c'est quartier comme... mort hein
c'est... c'est pas faux
non, et donc à l'écriture ça se voyait qu'ils avaient ça en tête parce que les fautes qui étaient censées faire Maria donc ma mère dans la série c'était avec cet accent là et quand Katharina est arrivée elle avait un accent bizarre
c'est
entre l'allemand le belge et bon et alors à chaque fois et à un moment, elle avait une réplique, c'était « C'est dur à ravoir les ketchup !» Et elle disait, c'est dur, alors qu'eux, ils avaient entendu « C'est dur à ravoir les ketchup !» Je pense un truc comme ça. « C'est dur à ravoir les ketchup !» Donc, de temps en temps, bon. Et il y a un moment où on essaye de parler avec mon frère, on met de la musique, en lui disant « Tu dis pas à maman, tu dis pas à maman !» Et elle enlève la prise, elle fait « Qu'est-ce qu'il faut pas dire à maman ?» comme ça.
En allemand ou quoi parce
que... Chez Sébastien, mon frère...
Alors, donc, comment expliquer à une portugaise qu'elle n'a pas l'accent portugais?
C'est ça, donc c'est un accent portugais, réellement, mais c'était pas, je sais pas, ça doit dépendre de la région.
Mais
je sais
en
pas.
Allemagne.
Et j'ai pris un fou rire, mais on a arrêté de tourner pendant un quart d'heure. Parce que là, c'est le fou rire d'enfant à l'école. Là,
oui, et où il faut pas vexer
de
plus.
Je voulais pas la vexer. Voilà. Parce que elle voyait clairement que parce que j'ai éclaté rire au moment où elle a ouvert la bouche, donc je pouvais pas dire que c'était autre chose. Mais des rires, ben, c'était des spasmes.
Mais j'imagine qu'il y a dû avoir quelques scènes qui ont pas dû être simples à tourner en termes de rire ou de gêne aussi. Vous êtes très nu.
Parce que la directrice d'écriture. C'est une femme qui
donc
dirige
elle
l'écriture.
Vous
elle s'est vengée, mais j'ai bien compris. Donc elle m'a mis à poil dans quasiment tous les épisodes. Et comme moi, je suis quelqu'un de très pudique, j'ai pris sur moi.
Et tu parles. Trop fier de montrer son corps, trop fier de montrer ses muscles.
Je pense à cette fameuse ménagère.
D'M6. Qui veut voir
qui
des
veut
fesses.
Voir de la chair.
Voilà, et ben elle sera servie.
Enfin, la ménagère, ça pourrait être votre mère hein, en même temps.
Non,
mais tout de suite, quand on dit ça, je trouve qu'on a un peu plus de frein.
Non, c'est diffusé à Arras aussi. Hein.
Et ben voilà.
Non, tu connais pas Florent.
Ma mère m'a envoyé un texto, elle me disait pourquoi on te voit que de dos. Tourne-toi la saison prochaine.
C'est à 21h. C'est à 21h sur M6 ce soir. Et voici Marina Rollman.
Ah bonjour les amis. Alors moi en ce moment je lis David Copperfield. Donc le héros de Charlie Dickens, hein, pas le magicien.
Ouais, bah sinon il y a rien à lire.
Qui fait des tours complètement fous. Vous vous rappelez un peu de David Copperfield? Il y avait un tour incroyable où il filme en direct à la télévision un camion. Alors Copperfield il regarde très sérieusement la caméra comme ça avec son camion derrière et il tire un peu sur le camion, tu vois, pour te montrer que c'est pas faux, hein, c'est un beau camion tout en camion. Et puis après il fait des gestes complètement mystérieux et magiques devant la caméra et puis il met un grand rideau sur le camion, pareil rideau en pur rideau, hein, 100% rideau. Et puis il y a une coupure pub, et quand il revient, on soulève le rideau, pouf, il n'y a plus de camion. Ah, c'était fort la magie dans les années 80. Mais donc là, je lis pas ça, je lis David Copperfield de Charles Dickens, qui raconte la vie de cet homme né orphelin de père dans le Suffolk au 19e siècle, et qu'on suit de la naissance à l'âge adulte. Et David Copperfield est lui-même le narrateur du livre, et le livre commence avec cette phrase, « Serais-je le héros de ma propre histoire, ou est-ce un autre qui prendra cette place ? » C'est ce qu'on verra dans ces pages. Et je me suis dit, mais c'est vrai ? On se rend pas compte parce qu'on est tous en vision subjective, mais si au fond, on était le héros de rien du tout. Si vous et moi, on était juste des personnages secondaires dans le film de la vie de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'on est la mère de Bambi. Peut-être qu'on est le mec qui joue du triangle dans l'orchestre du Titanic. Peut-être qu'on est Pompis dans Fast and Furious. On sait pas. Mais c'est vrai, comment est-ce qu'on sait qu'on n'a pas eu une existence mineure? En l'occurrence, on est très mal équipé à cette table pour répondre à la question puisqu'on cherche tous une existence publique, hein, à des degrés de succès différents, évidemment. Non, mais c'est vrai.
Pourquoi tu regardes Daniel dans ces cas-là?
Oui, pourquoi?
Non, mais bah parce que t'es au-dessus. C'est vrai, on cherche tous la confirmation du plus grand nombre. Est-ce que je suis intéressant? Est-ce que je suis aimable? Est-ce que je suis drôle? Etc. Et moi, par exemple, je trouve ridicule les émissions de télé-réalité. C'est, je me moque, les trucs où t'envoies des gens qui mettent des pierres fantaisie sur les canines de leur chihuahua et qui ont une relation compliquée avec leur papa. On les envoie sur une île des Baléares alors qu'ils n'ont pas du tout le phénotype pour. Et puis le jeu, après, une fois que t'es là-bas, c'est d'attraper un max de mycoses de jacuzzi avant d'aller s'engueuler dans le coin VIP d'un bar lounge tout en coussin carré blanc et en laser vert. Et en même temps, eux et moi, on cherche la même chose, exister dans le regard des autres. Parce que tout seul, c'est vrai, c'est difficile de savoir que t'existes. Moi, il y a des moments, j'existe, mais je sens bien que je suis un personnage secondaire, qu'il faudrait pas me confier des responsabilités. Hier, j'étais à une terrasse de café, je vous jure que c'est vrai, qui donnait sur une rue à sens unique. Et au début de la rue, il y a un bus qui entre gentiment comme ça. Et au milieu de la rue, 30 mètres devant le bus, il y a un cycliste qui s'arrête, qui se met à contresens, et c'était juste pour descendre de son vélo, quoi, pour aller le ranger sur le trottoir. Et ben, pendant 40 secondes, il y a une petite voix dans ma tête, en voyant le vélo faire face au bus qui arrivait, qui s'est dit, oh, il est chaud le cycliste, il veut faire un duel avec le bus, frontal. Ah, il est courageux le gars, il va y aller, quoi. Et donc dans ces moments-là, je me dis, oh là là, heureusement qu'il y a des adultes qui s'occupent de faire tourner tout le reste. Parce que moi, très clairement, je fonctionne en alternance. J'ai un mi-temps comme humain, mais le reste du temps, je me rapproche plus d'une anémone. Je regarde la vie passer comme ça, en espérant qu'il n'y a pas d'amateur de plongée qui passe trop près. Et on n'écrit pas des livres sur les vies des anémones. Donc je suis peut-être pas le héros de ma propre vie. Mais c'est pas mal, ça veut dire qu'à travers la fiction, je peux la vivre par procuration. Et c'est peut-être mieux pour les baléares, globalement.
Bravo Marina.
La bande originale, Nagui. Sur France Inter.
Ça, c'est la BO de Papa ou Maman.
C'est vachement bien le générique.
Ouais, tombe
j'adore
bien.
J'adore la musique. Moi.
C'est du portugais ?
Ouais.
Mais arrête.
Est-ce que je peux partager mon mot préféré en portugais ?
C'est quoi ton...
Vous savez comment on dit papillon en portugais ?
Papillon.
Papillon. Qui est un mot assez joli dans toutes les langues du monde.
C'est une vanne ou c'est vraiment...
Non, c'est juste que je trouve le mot chouette.
Si c'est ma mère dans la série, elle fait papillon.
Ouais, bah c'est pas très loin. Alors que c'est un mot assez doux dans toutes les langues, quoi. Bourboulette. Qui est peut-être le mot le moins gracieux du monde.
Mais non, mais par contre, t'as un joli accent portugais.
Merci beaucoup. Ah oui, il y a une grande communauté portugaise en Suisse. Non,
c'est vrai.
Salut. Ouais.
Mais
oui,
mais non, mais t'as la musique qui va avec.
J'ai travaillé bourboulette.
Cette jolie langue. Par contre, je ne sais pas qui chante ce générique de Papa ou Maman.
C'est.
T'en plus
non.
Merci de
chercher une connerie pour meubler, mais non.
Bon, on sait pas. Même M6 ne le sait pas, c'est honteux. C'est honteux, ça n'a pas été préparé. Ah, ça y est, elle envoie un texto. Au secours, je suis à la radio, il est en train d'humilier M6. Nicolas de Taverneau, fais quelque chose.
Si on l'appelle.
Vite. Tu veux qu'on appelle Nicolas Taverneau direct?
Ah ouais.
Bon, on va lui demander peut-être qui c'est, oui. Le prénom, c'est également tous les soirs, et c'est un succès à Édouard VII. Ça se joue jusque-là, en janvier.
Jusqu'au 6 janvier, oui.
Ça va, il va y avoir un spleen, un baby blues quand vous allez arrêter. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez pleurer?
Bah pleurez pas tout de suite parce que je sais qu'il y aura la tournée, mais oui quand même, hein, c'est vrai que c'est moi, c'est la première fois que je joue autant de soirs par semaine au théâtre. Mon one man, je l'avais pas joué tant, c'était 5 fois le max que j'avais fait.
Et puis là,
7 fois.
Vous avez des bons camarades.
Et j'ai des bons camarades, ouais. Parce qu'on s'entend tous très très bien.
Clairement.
Donc je passe quasiment plus de temps avec eux qu'avec ma famille, mais. Oui, quand ça va s'arrêter, je vais être un petit peu triste, c'est vrai.
Le prénom, c'est au théâtre Édouard VII, c'est à Paris, mais M6 est disponible maintenant partout, ce qui n'était pas le cas au début. La naissance en 87. Non, je dis ça parce que je racontais à Florent. Florent ne croyait pas quand je lui dis que j'avais bossé à M6. Il dit, t'as bossé à M6. J'ouvrais des émetteurs, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait un nouvel émetteur M6, on délocalisait des émissions et on allait à Nantes et on allait à Lille et on allait à Marseille en disant, il y a une nouvelle télé. Et on enclenchait l'émetteur, je te jure.
C'était la conquête du territoire, quoi, vraiment.
Exactement, avec des émissions qui se passaient sur place.
T'étais installateur en antenne,
quoi.
J'étais dépanneur.
C'était toi le dépanneur.
Ça. Et on distribuait des autocollants M6, c'était trop la classe. Avec Nicolas Taverneau, que j'embrasse au passage.
Alors maintenant, M6, ils ont aussi les replays. par exemple, sur lesquels on peut voir les deux premiers épisodes de Papa ou Maman, qu'on a vu la semaine dernière.
Exactement. Là, c'est le
3 et 4 ce soir. Donc, il y a le 1 et le 2 sur les replays pour rattraper pour les retardataires.
Très bien. Et même si vous ne les avez pas vus, ce n'est pas gênant pour regarder ce soir, parce qu'on peut comprendre.
Il y a un petit résumé.
Non, et puis même au début, oui, c'est ça. Previously on Papa ou Maman. Voici la bande originale de Florent Père. On va commencer en 1980 où vous écoutiez.
Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Bardo peut partir en vacances. Ma vedette, c'est toujours toi.
C'était plutôt la BO de la famille, j'imagine, oui. Cette musique-là.
Oui, parce que je venais de naître.
Voilà,
Mais oui, j'ai grandi dans une boîte de nuit que mon grand-père et mon père ont créé dans les en 69, si je dis pas de bêtises.
Chez Mathieu.
Chez Mathieu.
J'ai grandi dans une boîte de nuit en 69.
C'est pas mal.
Titre.
Avec le dépanneur.
Émilie Caen.
Émilie Caen, voilà. C'est la totale.
Et mon père pianiste et chanteur, et mon grand-père chantait aussi, et donc j'ai le souvenir d'entendre mon père souvent chanter du Nougaro, et particulièrement celle-là, et je crois même, si mes souvenirs sont bons, qu'il a un petit peu dragué ma mère avec cette chanson. En tout cas, c'est leur chanson, et donc je me souviens, voilà, c'est un des souvenirs que j'ai dans la boîte. Après, moi, j'ai chanté aussi dans la boîte. J'avais mon petit tour de chant où je chantais du Patrick Bruel.
Avec l'accent du sud-ouest.
Non,
mais l'accent portugais.
Non, c'est vrai.
Je crois que c'était... Ouais, Kenji n'existait pas à l'époque.
Pas
donc...
encore, non.
Voilà, parce que vous êtes dingue et fan de Kenji Girac.
Oui, complètement.
Mais vous chantiez du Bruel. En imitant Bruel?
Non. Non, non, mais j'avais 10 ans. Hein. Après, donc, c'était pas 80, c'était 90. Mais j'avais les valses de Vienne. Ça, c'est pas Bruel.
C'est Feldman.
Mais voilà, j'avais mon petit tour de chant. Et de temps en temps, il y avait des soirs dans la semaine où j'allais et je sentais 10 minutes, un quart d'heure devant la clientèle de la boîte.
Et c'est là où vous avez découvert le plaisir d'être applaudi, d'être regardé? Sans ou vous aviez le trac?
Si, j'avais le trac, mais bon, j'étais toujours avec mon père, mon grand-père, j'étais un peu ma tante aussi qui chantait, donc c'est très familial. J'étais un peu caché aussi, mais après, quand je me suis mis au sport, j'ai complètement oublié tout ça. Ça m'a pas mordu dès l'enfance, l'envie de représentation.
Et l'école, c'était un peu, vous dites, comme dans le documentaire,
être et avoir. Ah oui, ouais. Complètement, parce que j'étais dans une petite école de village qui était, je sais pas si on le refera aujourd'hui d'ailleurs, mais j'avais une demi-heure à travers la forêt, une demi-heure aller, une demi-heure retour.
Petit poussé.
Exactement. Et je partais avec mon petit cartable à travers les bois avec un copain du quartier, et j'étais dans une école où il y avait une seule maîtresse. 20 élèves, ouais. Mais dans la même classe de la dernière année maternelle au CM2.
Tous les niveaux,
ouais. Et c'était c'était génial, on était très... Et d'ailleurs, il y a une photo, dans le générique de Papa au moment, il y a une photo de
vous,
de moi, gamin, dans cette école, l'école de Tortous.
En 2002, là, vous choisissiez votre musique et vous écoutiez... I wanna love you
and treat you right. Ah ouais, la drogue.
Je n'ai jamais fumé, mais je me prenais. J'ai eu une période ski nautique, voilà, surf, sport de glisse, les gars. Je portais un poncho toute la journée, les cheveux longs.
Des hugs.
J'étais cool, mais je me prenais vraiment. Alors que j'étais très sain.
C'est que les hugs sont des chaussures, avant d'être des chaussures surfeurs. À la mode, ouais, c'est les surfeurs qui portaient ça.
Ah non, moi je portais des cool, des grosses tongs.
Et vous savez pourquoi ça s'appelle hug?
Non.
Parce que c'était moche, justement, c'est ugly.
Ah oui, d'accord.
Ugly en anglais,
alors
donc
maintenant,
c'est moche.
Maintenant,
c'est très, très. Non, c'est pas toujours beau, mais c'est branché. Bob Marley, vous choisissiez cette musique parce que c'était justement à la cool, ça allait avec l'ambiance surfeur.
Ah oui, moi je voulais avoir des dreadlocks, je voulais être cool, je voulais être le vrai surfeur, baggy, dreadlocks.
Être noir comme Armstrong, comme disait Nougaro.
C'est ça, exactement. Ouais. Et puis après, ça m'a passé. Mais,
Et pourtant, en 2002, vous abandonnez le sport de haut niveau.
C'est le sport qui vous abandonne.
Non, c'est une blessure.
C'est un peu les deux. C'est-à-dire, je me suis luxé le genou droit en 99. J'ai été opéré 3 fois. Enfin, bref, ça a été une énorme blessure qui a mis un terme à ma carrière qui était déjà pas exceptionnelle. donc, j'étais pas très très doué, il faut dire ce qui est. Et à un moment où à mon avis, commençais à sentir que j'avais fait le tour et de mes capacités et aussi du ski nautique de haut niveau, je crois. Je suis allé un petit peu voir ailleurs et je suis allé dans un atelier de théâtre à Saint-Raphaël.
Comme ça par hasard?
Ouais.
Vraiment. Quand même, il y a bien un truc qui vous a.
Quelqu'un, souvent c'est une fille. Souvent c'est une fille qui voit les comédiens aller prendre des cours de théâtre.
Kaiser Sosé.
C'est ça. Geoffrey de Perrac. Non, mais c'est marrant. Ouais. Mais quand on regarde à posteriori, on se dit, bah oui, mais j'ai toujours fait amuser tout le monde.
La galerie.
Voilà, c'est vrai, je faisais des sketchs en fin de repas chez mes, à la maison à 8, 10 ans. J'avais mon petit tiroir avec mes accessoires. À chaque fin de repas, je faisais des personnages. Donc c'est un peu logique. Mais là, non, j'y suis allé vraiment, je sais pas pourquoi. Et puis je me suis mis à lire.
Qui vous a donné envie de faire rire les autres, justement? C'était Coluche? C'était plutôt des sketchs ou Louis de Funès au cinéma?
De Funès, indéniablement. Mes parents m'ont biberonné à De Funès. Ma mère, enfin mes parents sont des immenses fans de Funès. Je regardais ça, mais je comprenais même pas en fait. Je me souviens avoir regardé peut-être un million de fois Le Gendarme à Saint-Tropez. Je suis incapable de vous dire l'histoire.
Ah bah lui j'en
me souviens. À part les cunus et De Funès quoi. Et De Funès, bon.
C'était surtout sa force comique de mimer ce qu'il disait en fait. C'est-à-dire chaque mot était souligné par le geste qui venait grossir le trait. En fait,
mais... Donc De Funès vraiment. Mais mon père aussi m'a fait découvrir Chaplin très jeune. Et Jim Carrey un peu plus tard. Buster Keaton. Et puis je regardais aussi La Classe tous les soirs.
Et les Tex Avery.
Ah, La Classe.
La Classe, donc Joël, donc culture humoriste quoi. Ouais. Donc Palmade, Bigard, Robin. Et puis tous les cartoons. Ouais.
Et vous êtes passé par le cours Florent, le conservatoire de Marseille aussi.
Oui.
Et vous avez commencé aussi à faire du one man.
Ben, quand je suis sorti du cours Florent, quand je suis sorti du conservatoire, je me suis dit où j'attends de réussir un casting ou qu'on m'offre du boulot, ou alors j'essaye de me créer du boulot tout seul. Et naturellement, de toute façon, déjà au cours Florent, déjà, j'allais naturellement vers les personnages de sketch, dans le jeu de one man, quoi. Donc, je me suis écrit un ou deux sketchs que j'ai joué d'abord en soirée universitaire, et puis après, je suis allé faire une petite audition dans un petit café théâtre à Marseille qui s'appelle Le Quai du Rire. Et j'y étais tous les soirs en première partie après.
On arrive en 2010.
On écoute en entier.
2010, vous écoutez aussi bien Muse et Resistance que...
Combien de temps,
Red Jenny,
combien de temps encore? Des années, des jours, des heures? Combien? Quand j'y pense...
J'aime bien cette différence de style. Non, mais c'est... Voilà, on n'est pas obligé d'écouter qu'un style de musique et vous le prouvez.
Non, mais c'est vrai que... Reggiani aussi, par exemple, mais... quand on se met, en fait, je me suis mis à découvrir l'écriture quand j'ai commencé à vouloir écrire mes sketchs. Et je me suis rendu compte à quel point c'était dur de bien écrire et de l'humour. Et du coup, on devient sensible à toute forme d'écriture. Et donc, je me suis intéressé plus à des Brel, à des Reggiani, à Brassens, Nougaro aussi, des grands auteurs qui sont un peu les poètes. C'est les chanteurs, c'est un peu c'est les poètes d'aujourd'hui. Donc voilà. Et en même temps, Muse, parce que l'autre côté, ça c'est mon petit côté rock'n'roll.
Ça envoie du bois. Vous dites, vous intéressez à l'écriture à travers les chansons. On peut le faire aussi à travers des livres, à travers des nouvelles, des récits. Enfin, il y a d'autres plumes qui peuvent être intéressantes.
Mais j'en fais aussi d'ailleurs. Mais je me suis rendu compte qu'avant, avant de me mettre à jouer, j'allais au cinéma comme un spectateur vraiment lambda. J'allais voir plutôt des blockbusters, trucs comme ça. Et à partir du moment où je me suis mis à jouer, je me suis rendu compte de ce que c'était de jouer. Donc, je me suis mis à aller voir des films où il y avait un jeu plus fin chez les acteurs. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai appris à lire parce que je ne savais pas lire. Donc,
sportif.
Ouais. On a commencé avec ensuite le club des cinq, et puis ouais. Non, mais j'étais plus sensible au texte. Et Brel, c'est mon père aussi qui m'a bien initié.
Serge Reggiani que nous venons d'entendre, ça s'appelle Le Temps qui reste, qui est d'ailleurs une très bonne pièce de théâtre également qui se joue à la Madeleine.
Absolument. Et en 2010, pour vous, Florent, c'est France 2, tout d'un coup, cette émission de Laurent Ruquier que vous avez évoquée tout à l'heure, on ne demande qu'à en rire. Et pourtant, au début, vous n'aviez pas du tout envie d'y aller.
Ah non, j'œuvrais farouchement pour que personne n'aille dans cette émission.
Pourquoi donc
parce que on était tous à faire, il y avait plus d'émissions d'humour. On faisait tous des festivals où on se faisait déjà un peu juger, mais par des gens du métier. On faisait nos scènes ouvertes, c'était dur quoi. Et d'un coup, on nous disait vous allez venir en pâture. Enfin, j'avais la sensation qu'on allait venir en pâture, qu'on allait avoir un jury avec une Miss France. En fait, au début, en plus, le jury c'était des gens qui venaient faire leur promo. c'était pas des gens du métier. Donc, il pouvait y avoir Miss France qui venait vendre un calendrier et qui d'un coup disait vous êtes
bien,
pas drôle.
Pas bien, ouais.
Bon. Ouais. Donc, alors dans les scènes.
Plus tard, c'est devenu Jean Benguigui et là, c'est.
C'est un acteur.
Ça avait une autre dimension.
Oh, il fait partie de ce métier, Jean Benguigui.
Il a été Miss France. Hein,
qui a été Miss France aussi en 62, je crois, on s'en souvient mal. Non, mais c'est vrai que quand c'est arrivé, pendant
Catherine
toutes les scènes ouvertes.
Après, c'était Catherine Barma aussi.
Elle ne comprenait pas, mais elle produisait, on pouvait rien lui dire. Mais c'est vrai que je disais à tous mes potes, il faut pas y aller, ouais. Si on n'y va pas, parce que j'étais un peu genre Dupontel et tout, l'émission va mourir si on n'y va pas, c'est une connerie, nanana. Et puis un soir, comme si c'était un pavé dans la mare du monde des humoristes, parce que depuis le petit tas de boire, il n'y avait rien eu de tel. Enfin, il y avait la classe, mais. Claire Jazz, ma metteur en scène à l'époque et que je travaillais, m'avait dit, tu sais, une émission comme ça, ça peut changer la vie, quoi. Oui. J'ai regardé toutes les émissions en une nuit, et j'ai vu que le jury s'était affiné, les jugements étaient moins durs et puis un peu plus intelligents et tout ça. Et comme par hasard, le lendemain, il y a Émilie qui s'occupait du casting dans le monde de carrière, qui est venue voir mon spectacle, qui m'a attendu à la sortie, qui m'a dit, on aimerait que tu viennes, et je n'ai pas résisté. Et j'ai vraiment bien fait parce que j'y ai passé.
Ça a duré, ouais, combien de temps?
3 ans, ouais.
Ah ouais,
quand même. Enfin, ils ont fait 4 saisons. Moi, j'en ai 2 et demi, j'en ai fait. Et c'était un plaisir. Enfin, j'ai tellement appris. Puis c'est beaucoup de plaisir. Puis ça a changé beaucoup de choses.
Ouais, très rapidement, tout d'un coup, les salles sont pleines, j'imagine, après le passage dans l'émission.
Oui. C'est la promo la plus efficace que j'ai jamais connue parce que comme on enregistrait le lundi, mardi et qu'on était tous on jouait à Paris, mais en même temps, on était en tournée en province, vous diffusiez l'émission le mardi. Moi, on l'a tous fait, mais j'ai des amis qui ont un café-théâtre à Toulouse qui s'appelle Les 3T, qui sont vraiment de très bons amis, qui m'ont appelé un soir en me disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? On vient de faire péter le standard. On a vendu toutes les places pour les 2 semaines à venir parce que j'avais dit, en fait, je jouais le sketch et derrière, on disait, je serai au 3T jeudi, vendredi, samedi, après-demain. Donc les gens appelaient de suite parce qu'ils avaient vu votre travail et tout de suite, ils aimaient ou ils aimaient pas. C'est la meilleure promo qui existe.
En 2013. Johnny, l'envie. Elle correspond à quoi cette chanson en 2013, si vous l'avez demandé? Elle vous a marqué, vous voyez?
Oui, parce que je me suis mis à écouter. J'ai découvert en fait, et j'avais un point de vue sur Johnny qui était un peu un raccourci, et je me suis rendu compte que
un peu cliché,
exactement. Ouais. Un peu le rocker ringard. J'avais jamais trop écouté. Je connaissais comme tout le monde, mais sans plus. Et je me suis rendu compte que deux de mes idoles étaient fans de Johnny, c'est Philippe Cobert et Fabrice Luchini. Je me suis dit, comment
les amis de mes amis sont mes amis,
si j'aime ces deux-là et qu'ils sont fous de Johnny, c'est qu'il y a quelque chose chez Johnny.
Il y a Raffarin aussi qui était fan.
Oui,
qui était le troisième idole aussi.
Il y a Steve Nain.
Non, et Cobert, il fait une imitation de Johnny incroyable dans son spectacle, La Danse du Diable.
Exactement. Je me suis dit, c'est qu'il y a quelque chose chez ce gars-là. Et effectivement, quand je me suis attardé, j'ai été sensible à cette bestialité, cette bête de scène. Et je me suis mis à écouter du Johnny en long, en large, en travers, en chanté. Voilà. Et je l'écoute avant de monter sur scène. Parce que, pour moi, c'est le symbole du showman, de la bête de scène. Et quand j'écoute, au-delà de ce que l'envie raconte, j'ai envie d'aller brûler les planches.
Et l'envie signée Jean-Jacques Goldman, faut le préciser quand même. Le texte et la musique de Jean-Jacques Goldman est superbement bien écrite.
Et 2013, c'est le début de votre one man, tout public ou pas, et vous allez le jouer pendant 4 années.
Ouais. De partout, à Paris et puis de partout en province.
C'est quoi la durée moyenne de vie d'un spectacle? 4 ans, est-ce qu'on vit bien?
C'est la durée de vie du comédien.
Est-ce qu'on vit bien 4 ans avec un spectacle? Je suis toujours étonnée quand je vois par exemple des musiciens qui vont tourner avec un album pendant 2 ans et demi, 3 ans. À un moment, je me dis, mais comment ils font pour chanter toujours les mêmes chansons?
Alors déjà, même dans ce spectacle-là, il y a même un sketch que j'ai joué 12 ans.
Ah oui.
Mon premier sketch, je l'ai joué 12 ans. Donc, et sans me lasser. Mais j'ai aucune lassitude, moi, à être sur scène, à jouer ce sketch-là. Là, c'est un sketch où je faisais un sommelier. Je l'ai joué 12 ans. Je sais pas combien de fois je l'ai joué, mais en 12 ans, je l'ai joué 2-3 fois au radar en me disant, j'en ai marre. Sinon, moi, je me suis amusé tout le temps. Et l'avantage du One Man Show aussi, c'est que quand il y a une petite lassitude ou qu'un soir, on sent un peu moins, on fait 3 impros, on se remet. Enfin, moi, j'aime tellement être sur scène, j'aime tellement jouer que je n'ai aucune lassitude.
Justement, avant de monter sur scène dans le prénom, par exemple, vous chantez, vous vous défoulez, vous faites quoi dans votre loge?
Alors, j'ai essayé de convertir le reste de l'équipe à la chanson. On a chanté.
Jonathan Lambert chante très bien.
Certainement, mais pas avec moi.
Parce que vous chantez quoi, vous ?
Je leur faisais chanter Enrico Macias.
Vous chantez l'envie ?
Non, là, on chantait Donner. Donnez-moi. Voilà, on chantait ça. Et puis après, ça les a gonflés, donc je le chante tout seul dans ma loge.
Dana Castro, merci de venir à ce micro, Dana. Vous êtes docteur en psychologie, bonjour. Vous avez publié notamment Frères et Sœurs, Les aider à s'épanouir, et également Petit silence, petit mensonge, Le jardin secret de l'enfant. C'était en 2012 aux éditions Albin Michel. Donc vous y connaissez en famille, et justement la famille un peu de déglingué qu'il peut y avoir dans papa ou maman. On dit que la famille est folle, on ne sait plus très bien d'ailleurs qui est plus fou que l'autre. Elle est où la normalité d'ailleurs dans une famille ?
Ah, ça c'est une vaste question.
Vous avez
je crois que chaque famille a sa normalité. Dans la série, la famille est un peu vintage avec papa et maman.
Ouais.
Au début, les enfants dans leur chambre en train de comploter, et petit à petit arrive la crise. Et la crise arrive parce qu'il y a un événement, c'est mon point de vue, qui est un peu douloureux, qui est une forme de trahison. Donc, la famille peut rester normale.
Là, pardon, vous parlez du divorce ou vous parlez d'un sentiment de
non,
tromperie.
Tel que je l'ai compris dans le film, c'est au moment où, justement, le César parle sur sa femme qui écoute.
Ouais.
Elle la dévalorise, elle dit qu'elle est nulle, qu'elle est une
esbille. Ah, d'accord, sur le travail, d'accord,
sur
oui.
Sur le travail,
oui,
c'est-à-dire, mais
elle a trouvé du boulot chez son concurrent principal, qui est un ami d'enfance. Et rival, voilà. Et lui, qui ne veut pas que sa femme travaille pour lui, va la dévaloriser, va dire, mais le CV est bidon, plus personne ne veut d'elle.
Exactement.
Elle est trop âgée, ainsi de suite. Et elle entend cette phrase.
Ça,
et donc, elle
a...
sait que dans ses yeux, elle n'est plus...
Et même dans les siens.
Ouais.
Parce que pour elle aussi, c'était difficile de se dire 40 ans, 10 ans de sans activité. Mais je pense que la normalité, en fait, ça dépend de chaque famille, parce que dans chaque famille, il y a sa culture, et dans cette famille, Mendes, finalement, la tribu est très unie. Les parents s'engueulent régulièrement, les enfants connaissent par cœur, donc en fait, c'est presque un show pour les enfants.
Oui,
les enfants connaissent par cœur les répliques, donc tout va bien, ils sont tranquilles, tant que quelque chose d'imprévu intervient dans la famille.
Alors justement, est-ce que l'amour au sein d'une famille, que ce soit entre les papas et mamans justement, ou vis-à-vis des enfants, c'est aussi la manière dont on les regarde, la manière dont on les admire ou dont on les réconforte ? Puisque là, vous parliez du regard justement que peut avoir le mari sur la femme, et là, elle se sent trahie. Est-ce qu'il faut les regarder avec une attention particulière ?
Oui. Alors là, tout être humain mérite d'être regardé avec une attention particulière.
J'entends. Non, mais je parle au sein d'une famille particulier.
Au sein d'une famille, oui, je pense que les enfants...
Parce qu'il y a des parents qui ne vivent que avec les reproches, en disant, en faisant que des reproches aux enfants. Tu n'as pas rangé ta chambre, tu n'as pas fait tes devoirs, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela.
Ouais, ils sont un peu excédés, ils vont le bien des enfants, ils veulent les éduquer.
Et c'est important de dire aussi, je t'aime et tu es intelligent, tu es intelligente,
mais
tu es beau, tu es
vrai.
Belle.
De dire vrai. Parce que si on balance une récitation de compliments aux enfants, mon amour, mon chéri, mon cœur, que tu es beau, que tu es intelligent, tu es le meilleur, etc.
Ben, ça peut être vrai.
Oui, mais il faut que l'enfant le comprenne. Il faut que ça soit vrai et approprié.
Moi, j'ai très bien compris quand elle m'a dit ça à ma mère. Je pense qu'elle avait vraiment
raison.
Non, en
fait, ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, il faut dire les choses aux enfants, il faut leur montrer l'amour. C'est presque plus que l'amour, parce qu'ils sont assez sûrs de l'amour qu'ont les parents, mais la fierté qu'on a d'être, et leur unicité. En fait, ce que les enfants veulent, c'est être unique. Et quand on leur dit, écoute, tu es génial, parce que t'as si bien joué, t'as si bien fait du surf, donc sur des choses un peu concrètes, alors là, non seulement ils sont heureux, mais en plus, ça construit leur confiance en eux.
Oui, mais pardon, à l'inverse, on ne peut pas dire non plus, vous dites, il faut dire la vérité, on ne peut pas dire une vérité qui peut blesser.
Si l'enfant est con et moche...
Oui, voilà, c'est ça.
Il y a un moment, il faut le dire.
Il faut le prévenir.
Non. Moi, je dis pour la vérité.
T'as ton médium, t'as senti ce que je voulais dire.
D'abord, con et moche, je ne sais pas aux yeux de qui.
Voilà.
Donc ça aussi, c'est très relatif.
Si on parle dans la relativité...
Non, on ne va pas parler de la relativité, c'est pas mon domaine.
Non,
moi, je ne sais pas, je ne comprends pas la relativité.
Mais Dana, la beauté ou la mocheté, c'est relatif.
Je suis d'accord avec vous.
C'est très objectif. Il y en a qui sont hyper cons et hyper moches.
C'est objectif et unanime.
Écoutez, ils sont hyper cons et hyper moches dans les yeux des autres.
Voilà.
Dans leurs propres yeux, tout le monde trouve qu'il a quelque chose de, au moins, qui mérite qu'on l'aime.
Mais donc, revenons à la vie de famille. Oui, c'est ça. Revenons à la vie de famille. Est-ce que la vie de famille a des règles, comme on peut l'avoir au théâtre? Chacun a son rôle précis dans la famille, entre les enfants, les parents, la maman, le papa, et ben, l'aîné, la benjamine.
Dans la famille vintage, si je peux parler comme ça, les choses étaient très claires. Il y avait les parents d'un côté, il y avait les enfants de l'autre côté, les enfants obéissaient, les parents commandaient, et tout le monde était content. Enfin, on ne sait pas trop, mais en tout cas, ça fonctionnait comme ça. Dans la famille moderne, elle est beaucoup plus flexible et beaucoup plus complexe. Et les rôles, finalement, dépendent. Je crois que les rôles, chacun se distribue dans un rôle qui va faire du bien à la famille. Comme vous disiez tout à l'heure, le petit scientifique, finalement, a un rôle assez équilibrant dans la famille. Tout d'un coup, il se commence à parler de ces histoires quantiques. Personne ne comprend, mais ça apaise la tension.
C'est vrai.
La petite qui veut aller à la messe tous les dimanches, elle est extrêmement carrée et elle exige qu'on respecte les règles.
Les prises de parole.
Les prises de parole, exactement. Donc, les règles que se donne la famille. Donc, vous voyez, la grande, elle est un peu à côté parce que c'est l'âge. Donc, on va dire qu'elle a des circonstances atténuantes.
Et dans sa crise d'adolescence. Ouais. Non, mais dans le couple, c'est vrai que l'absence de travail pour l'un, les doutes de réussite pour l'autre, on a l'impression que le mal incarné par Florent Père, qui a des doutes dans sa boîte et qui se sent donc un peu plus faible, affaibli dans son travail, essaye de récupérer l'autorité en rentrant à la maison pour dire je continue d'être le mâle dominant, et il se sent plutôt affaibli.
Oui, ça peut être ça. Je l'ai compris aussi, comme chacun des parents ayant beaucoup de préoccupations par rapport à eux-mêmes, parce qu'au fond, dans cette grande tribu, ils donnent beaucoup aux enfants à leur manière et il y a peu de temps pour eux. Donc chacun est très préoccupé par ses aspirations et c'est légitime d'avoir des aspirations. Et ce qui fait que lorsqu'ils se rencontrent, soit ils ne sont pas exactement sur la même longueur d'onde, comme ça arrive, puisque chacun est dans sa tête, soit effectivement, chacun essaie de récupérer une place ou se valoriser.
Alors, comment définir la vie de famille idéale? Est-ce qu'elle doit trouver un équilibre entre l'amour, évidemment le respect de l'autre, le mettre en valeur? Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il y a des règles essentielles à respecter pour la vie de famille? S'il vous plaît.
Laissez-moi respirer.
Détendez-vous.
Avec Nadine, c'est pas possible.
Je dirais que la famille idéale, c'est une famille qui communique, c'est une famille qui négocie, c'est une famille qui s'observe et qui se connaît. Après, d'accord, je ne sais pas si j'ai dit les trois C, elle se connaît, elle est complexe.
Et elle communique.
Elle communique.
Elle est sincère.
Elle est sincère, exactement, elle est sincère. Donc, pourquoi? Parce que, compte tenu de tout ce qui se passe, de toutes les aspirations, de toute cette individualité dans une tribu, comment se rééquilibrer si ce n'est par la discussion et la compréhension de l'autre.
Et la famille en 2018, il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de séparations, c'est le thème aussi dans Papa ou Maman, justement. Les familles recomposées, les familles formidables, on en est où, la famille? C'est encore une valeur sûre?
Ben oui, c'est toujours une valeur sûre, parce que tant qu'il y a de la compréhension, tant qu'il y a du dialogue, on peut s'entendre. Parce que dans tout ça...
C'est très important, hein, dialogue et communication, vous en parlez beaucoup.
Ouais. C'est mon métier d'abord. Et ensuite, je pense que c'est vraiment important.
Est-ce qu'on peut tout dire dans une famille ou est-ce qu'au contraire, il faut être diplomate?
Non, il faut dire utile. Pour moi, je pense qu'il faut parler utile. D'où mon livre, Le Jardin Secret. On a tous un jardin secret. Et heureusement qu'on l'a, vous rendez compte? Des catastrophes qui nous arriveraient tous les jours en rentrant du boulot si on racontait toutes les pensées abominable qu'on a pu ourdir vis-à-vis de la belle-mère ou vis-à-vis de...
Florent Père, vous avez vite répondu non, il ne faut pas tout dire dans une famille, vous.
Non, je pense qu'effectivement, la tension naît du manque de communication, parce qu'à force de rien dire, ça laisse aussi la place à l'autre, au fantasme, quoi, et à s'énerver tout seul dans son coin. Mais je pense effectivement qu'il faut avoir... Et puis même pour soi... Je trouve agréable d'avoir un endroit dans sa tête où on sait qu'il n'y a que vous qui avez accès à ça. Personne, des choses que vous n'avez jamais rien dit, que vous n'avez jamais dit à personne, que vous gardez pour vous, des sensations, des pensées que vous ne dites pas. Et je trouve ça rassurant d'avoir ça aussi.
Maman aussi. Que pour soi. Je trouve que c'est super.
Sans même jusqu'à aller jusqu'au mensonge, comme Carole Bouquet nous disait, il faut mentir quand on est dans le couple. C'est vrai que c'est important d'avoir son jardin secret. Ça évite peut-être d'avoir à mentir plus tard.
Oui, mais je fais juste une différence, si vous voulez, entre les mensonges qui blessent, les mensonges par dissimulation, etc. Parce que, ouais, les mensonges qui blessent et que ce qu'on appelle en psychologie les mensonges blancs. Bah, on ment parce que ça fait du bien. Le repas était dégueulasse, mais enfin, on dit qu'il était très bon.
Ah, vous avez besoin de parler, hein.
Et bon, des choses comme ça, ça
vous
fait
pleurer.
Vous
pouvez pleurer si vous voulez.
Donc, on voilà, peut mentir à son enfant, lui dire qu'il est beau s'il n'est pas beau, quoi.
Mais on n'a pas besoin de lui dire qu'il est beau. On peut lui dire aussi qu'il est super, qu'à nos yeux, il est génial, que donc, on donne son point de vue. Ouais.
Merci Dana Castro d'être venue à ce micro. Frères et sœurs, les aider à s'épanouir, c'est votre dernier ouvrage chez Albin Michel, publié en 2017. Tanguy, bonjour Tanguy.
Bonjour.
Le complotisme est un mal de notre époque.
Oui, avec Internet, dès qu'il se passe un truc, les gens pensent qu'il y a un complot derrière. Un album de Céline Dion annoncé, paf, il y a des messages disant c'est un coup du fabricant des boules Kies. Un attentat, on écrit comme par hasard, pile pour couler les gilets jaunes. On ne croit plus en rien. D'ailleurs Nagui, je suis sûr que vous êtes un reptilien.
Je te prouverai. Ça sera après les infos de midi. C'est la bande originale avec Leïla Kalamboudadi, Agnès Hurstel. Ah non, c'est Marina Rollman. Je t'avais pas reconnu.
C'est vrai qu'elles sont pas du tout.
Elles sont pas du tout.
C'est un petit bonbon, Marina.
Tanguy Bastureau.
Ça, c'est lui.
C'est Daniel Morin, oui.
Salut, ça va ?
Albert Algou, oui. Et Florent. J'ai eu peur.
Pardon, Marina.
On a vraiment la même vie. C'est un truc auquel on joue avec Agnès. On a le même mec, le même parcours, les mêmes parents. Non, mais je vous jure, c'est impressionnant.
Florent, à partir. Enfin, ça a déjà commencé la semaine dernière. Ce soir, on vous retrouve à 21h pour Papa ou Maman. C'est rare qu'un film donne, en France en tout cas, qu'un film donne une série comme ça par les mêmes auteurs et par la même.
Oui, c'est vrai. Oui, je me demande.
Une des premières fois.
Ça se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup aux États-Unis. Et je crois qu'en France, il y a Hippocrate aussi,
oui,
mais
Hippocrate.
C'est un peu en ce moment, quoi, effectivement. Mais on est dans les premiers, je pense.
Par les mêmes auteurs aussi.
Ah, c'est effectivement. Oui, si c'est vrai. Hippocrate aussi.
Ce qui donne une garantie. C'est une tendance, en tout cas.
Ouais.
C'est une tendance du moment. Finalement, ça devient une marque, Papa ou Maman. C'est-à-dire que on comprend aussi que c'est une histoire de divorce et que les enfants vont devoir à un moment donné choisir entre l'un ou l'autre.
C'est ça. Mais en plus, c'est vraiment le terme exact. C'est marque parce que entre la série et les films et la série, en fait, c'est effectivement de se dire il y a un ton Papa ou Maman, il y a un ton d'écriture qui est plutôt irrévérencieux où on se permet d'aller assez loin dans l'humour sans être jamais vulgaire ou trash, mais quand même pendant le tournage, pendant l'écriture, je me disais ah ouais, ça quand même en prime sur M6, d'accord, ok, bon.
Vous avez des doutes?
Non, pas de doute. Moi, j'étais content qu'on aille là, mais j'étais étonné qu'on s'autorise ça. Et en
l'occurrence, une totale liberté sur les vannes. Vous vous êtes permis une certaine improvisation. Parce que j'imagine qu'ils attendent ça aussi de vous quand ils vous disent allez plus loin, lâche-toi.
Ouais.
Lâche-toi, ça veut dire va plus loin que la simple phrase qui a été écrite.
C'est ça, exactement. Ouais, des petites trouvailles, mais pas de grosses impro. Enfin, il y a une impro où vraiment là, on m'a laissé m'amuser beaucoup. C'est je sais plus dans quel épisode c'est où le texte c'est juste César galère à mettre une couette dans sa housse.
Et ça marche. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. C'est le cinquième ou sixième épisode.
Et on m'a laissé faire deux impros de 10 minutes, je crois.
C'est tellement vrai.
Oui.
Quand on n'arrive pas à mettre sa couette dans la housse et que juste on a attrapé un angle, on se dit ça y est.
Bien sûr.
J'ai le coin. Et mais ça sentait le vécu. Comme vous le faites, ça sent tellement le vécu.
C'est pour ça que les gens se mettent en couple en vrai. Pas pour autre chose.
Pour le faire à deux.
C'est juste pour la housse de couette.
Voici Tanguy Pastureau. Tanguy, l'homme contemporain.
Il est au bout de sa vie.
L'homme contemporain. J'essayais de faire un bruitage sur ses mimiques à voir sur le web. Tanguy, l'homme contemporain s'ennuie.
Oui, parce que la vie, c'est quoi? Prendre le bus, travailler, reprendre le bus, mettez enquête exclusive spéciale nuit chaude à Camaret-sur-Mer avec Olivier de Kersauzon qui vomit et le reste du village qui nettoie. Puis dormir et ainsi de suite jusqu'à la mort. Qui est encore plus ennuyeuse puisqu'il paraît que tout ce qu'on voit, c'est un long tunnel. Comme à la sortie de la 13. Et qu'au bout, alors qu'on pensait retrouver Kurt Cobain en train de gober des Xanax, on doit se farcir Aznavour qui inlassablement répète « Mais il est où ici le Crédit Suisse ?» Oui, l'être humain s'ennuie, tel un rat dans un monde où les véganes auraient réussi à imposer le fromage végétal. Et quand il s'ennuie, il se met à penser et à refaire le monde. Ainsi Alexis Corbière, quand il a 2 minutes de break entre ses 17 interventions télé du jour, ben il rêve qu'il entre à l'Elysée avec les gilets jaunes et que Brigitte lui donne les clés, tandis que Nemo le lèche, voire l'inverse. Mais là, c'est qu'il s'est endormi et qu'il faisait un rêve moite. Oh. Mais refaire le monde, ça peut vouloir dire le réinventer. Et dès qu'un officiel vous dit « voilà ce qui s'est passé », répondre « eh oh, non d'abord ». On appelle ça la théorie du complot, qui consiste par exemple à penser que la planète est contrôlée par des aliens francs-maçons en pleine bar mitzvah de leur neveu, lequel est le fils caché d'Elvis, qui n'est pas mort. Mais enfin, il y a aussi des théories du complot absurdes. Hein. Et depuis Internet, ça a pris des proportions énormes du temps du Minitel. Au pire, vous vous demandiez si sur la messagerie du 3615 T'es chaud, Samantha, 19 ans, Paris, célib, aime le sexe, n'était pas en réalité un employé du nom de Jean-Luc. Mais en 2018, tout est remis en cause. Exemple, des gens sur Internet disent qu'Hitler ne s'est pas suicidé en 45, mais a fui vers l'Amérique latine. Comme Manu Chao, mais en moins fun au niveau des fringues. Et serait mort en 84. Il aurait appris cette année-là que le groupe Modern Talking était numéro 1 en Allemagne, ce qui allait à l'encontre de son rêve d'une civilisation supérieure, et aurait clamsé à ce moment-là. Alors d'autres disent que le monde est géré par les reptiliens, des hommes lézards, qui ne peuvent pas faire du X parce qu'à la première manipulation, leur organe se sépare de leur corps. Et qu'Elisabeth II, Madonna et Sarkozy seraient des reptiliens. À tous les coups, Carla sort avec un reptile. Un jour, elle va tomber pour zoophilie et va se retrouver comme une conne. On dit aussi que Diana aurait été assassinée par la famille royale, donc Elisabeth II serait en réalité un lézard criminel. Hein, si elle est le jugée un jour, sa prison, ce sera le vivarium du zoo de Vincennes, et tous les matins sous la douche, elle se fera prendre par un gros iguane. Alors c'est pas tout, 10% des Français, d'après un sondage, pensent qu'on nous manque, en fait, la Terre est plate et pas ronde. Ils se disent, sinon on pourrait pas jouer au bowling, ce serait en pente. Hein, et la boule, elle reviendrait et percuterait le gosse. Enfin, un Français sur 5 pense que les attentats de Charlie Hebdo ne sont pas dus qu'aux islamistes, qu'il y aurait quelqu'un d'autre derrière. Les types de pif poche qui auraient dit au frère Kouachi, occupez-vous de Cabu, 50 ans qu'il dessine, il a pas fait une seule planche de Placide et Museau, c'est inacceptable. Bref, tout ça, c'est du délire.
Et cette semaine, c'est après l'attentat de Strasbourg que le complotisme a sévi.
Oui, mardi soir, ça tire à Strasbourg au marché de Noël. Un type qui ne croit pas au Père Noël, parce qu'avec une telle attitude, le 25 au matin, sa chaussette sera aussi vite que sa tête. Donc BFM, CNews, LCI basculent en édition spéciale. Ils vont pas rester sur le rond-point d'entrée de Marmande avec René qui explique que même si Macron lui file son point en sucette, il voudrait quand même le lapider, alors qu'à Strasbourg, ça tape. Et là, sur Twitter et Facebook, qui sont des usines à fake news. Ouais. Hein, moi, si j'y vais et que quelqu'un m'écrit super chronique, je lui réponds, bah, pourquoi t'as pas aimé? Bah, des milliers de gens se mettent à écrire, ouais, comme par hasard, pile avant les manifs de samedi prochain, il y a un attentat. Traduction pour eux, Macron a vu le terroriste, lui a filé du brosouf en lui disant tire dans le tas, puis a repris son train-train, c'est-à-dire son relooking par Christina Cordula, qui lui jette du fard à paupières dans les yeux pour être sûr qu'il ait l'air humain et sensible quand il passe à la télé. Alors que si ça se trouve, c'est un lézard, Macron. Hein, et ces bêtes n'ont aucune empathie, il faut les voir bouffer des mouches encore vivantes. Et chaque événement ensuite vient conforter la théorie du complot. Le terroriste ne tire que sur des adultes, c'est comme par hasard, Macron lui a demandé d'épargner les enfants. C'est le lobby Gulli Jouet Club Pyjamasque qui a dû faire pression sur lui. D'ailleurs, dans les Pyjamasques, il y en a un qui s'appelle Yo-Yo, tu remplaces le Y par un C, ça fait Coco, diminutif de Cohen, c'est un juif. Et le souci, c'est que le complot, c'est toujours plus séduisant que la réalité. Le World Trade Center, si on se dit c'est un coup du Mossad, plus de W. Bush pour qu'il puisse tout péter en Irak, plus des maisons Phoenix pour qu'il y ait un bâtiment, c'est un étage maximum. Bah, ça a plus de gueule que si on réalise que 19 cons ont foncé en avion sur des tours au nom d'une idéologie qui n'a pas de sens. Et les politiques qui se plaignent du complotisme le nourrissent. Là, en 24 heures, Estrosi, Nicole Belloubet, Eric Woerth ont appelé à la fin du mouvement des Gilets jaunes. Forcément, en face, on se dit, ils se servent de l'attentat pour libérer les ronds-points. Et à la place des Gilets jaunes, on va remettre ces atroces statues de dauphins entourées de compositions florales. Regarde ! Au lieu d'expliquer que les forces de police ne peuvent pas être partout à sécuriser les marchés de Noël et protéger les Apple Store si on veut qu'ils arrivent à vendre 3 iPads avant le 24. Ce qui génère le complotisme, c'est aussi les non-dits, la com pourrie, le manque d'honnêteté. Parler aux gens comme à des grands, ils penseront comme des grands. Enfin, personnellement, j'attends rien bien des politiques, ce sont des lézards.
Merci, Tanguy Passion.
Bravo. La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Tanguy, qu'on retrouve le 18 janvier à Palavas et le 19 janvier à Arles. On sait.
Alors, j'ai la musique, oui. Jérôme Robotier, qui a travaillé sur les deux films Papa ou Maman au cinéma. Il a également fait la musique du Bureau des Légendes ou encore l'animation Sarah. Et c'est lui qui a composé cette musique du générique Papa ou Maman.
Avec des photos géniales.
J'attends un autre texto maintenant, c'est qui chante.
Ouais.
J'attends la voix. Blague à part, cette famille, ce qui est fort aussi dans l'idée des scénaristes, je parle de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, c'est que finalement, le contexte de la famille et tout ce qui peut s'y passer, on est un peu prisonnier parce que ce sont nos enfants, on va pas partir, on va pas les abandonner, ce sont nos parents, on va pas les renier, même si on divorce, bah comme on a des enfants, on va forcément être amené à revoir. Donc on est dans un cadre où tout peut arriver et on est extrêmement liés, on est tenus et en même temps déchirés.
Oui, et les parents, enfin je parle de Isabelle et moi, les parents sont encore et toujours les enfants, des enfants aussi de leurs parents, c'est-à-dire que les parents d'Isabelle qui essayent de divorcer à un moment ou à un autre se retiennent de le dire parce qu'ils veulent pas encore blesser plus Isabelle que ce qu'elle est déjà. Elle est déjà en train de divorcer, on va pas lui mettre notre divorce. Donc ils sont encore en train de... On reste des enfants de toute façon jusqu'au bout. Donc
et chacun se mêle de la vie privée de l'autre.
À tout le monde.
Chacun a une opinion, dire tu peux pas, mets-toi avec un tel, mais voilà. Et puis un sentiment de trahison permanent.
Ah ça oui, ça là c'est quand même vraiment Kuba et compagnie.
Il y a un deuil à respecter quoi. En tout cas on imagine que quand on se sépare, on se remet pas trois jours après avec un nouveau.
C'est Millican et vous. C'est ce que Millican et vous. Ouais. Les deux, vous aussi vous.
On le dit. Oui c'est vrai.
Enfin, vous le faites pas forcément.
Oui c'est ça. Non mais c'est des enfants, c'est vraiment des gamins quoi. C'est-à-dire que quand Isabelle, elle fait des selfies avec son patron, elle lui fait la bise, mais elle fait des poses lascives et tout.
Sans qu'il le sache, le patron.
Sans qu'il le sache, juste pour faire chier
pour
César.
Pour rendre jaloux.
Ouais, pour rendre jaloux avec un faux texto, enfin... Tout ça, d'ailleurs, il faut quand même avoir un cerveau bien malade pour écrire tout ça, parce que j'aimerais pas divorcer avec l'un des auteurs. Je vous le dis.
Parce que... On n'a pas précisé le réalisateur quand même, qui est
Fred Balek-Jean,
beaucoup
ouais.
Exactement
ouais.
Dans le rythme aussi et le tempo de cette série, parce que ça.
Ah oui, ouais, vraiment. Même avant le montage,
ça va vite,
sur le tournage, il avait même des visions de certaines séquences qui étaient pas exactes. Moi, je l'avais pas vu comme ça, sur la sincérité, pas sur la sincérité, mais sur moi je voyais Émilie et moi d'ailleurs on se dit là bon bah là c'est purement de la comédie, non jouez le premier degré, vous allez voir c'est au montage que ça deviendra. Et des fois on se dit non, sur des engueulades par exemple qu'on jouait un peu pas violente mais voilà, on se disait quand même là c'est peut-être un peu trop sombre, et en fait c'est lui qui avait raison, c'est qu'une fois monté avec la réaction des enfants hein, dans la pièce d'à côté par exemple, c'est très drôle.
Papa ou Maman, ce soir 21h sur M6, cette vie de famille, une véritable aventure avec cette tribu liée, déchirée, on s'en rend bien compte hein, Daniel Morin, c'est un véritable théâtre où chacun joue son rôle, c'est aussi quand même l'endroit où il y a de l'amour, l'échange, la communication comme
tout à l'heure Dana. C'est pas vrai, recommence, le con, recommence. Il veut ma peau, il va la voir, ce chien galeux infecté de puces et de morbac.
Qu'est-ce que je disais, moi? Ah oui.
Ah, encore une fois, pitié, por favor, please, fermez-la, monsieur Guy, j'en peux plus, j'ai la nausée. Vous faites revenir en moi des grumeaux mal digérés d'il y a trois jours. Leïla, aide-moi, prends ton fauteuil, pète-lui la gueule au lutin, qu'on en finisse. Visse la bouche, qu'il puisse plus s'exprimer avec ses phrases honteusement tièdes et vides d'intérêt. Ah, oh, et l'aventure de la famille, gna gna gna, et le lieu de l'amour, ni ni ni, et l'échange, ni ni ni, ça me dégoûte. Et puis d'abord, qu'est-ce que vous y connaissez, vous, à la vie de famille? Quoi? La famille, ce groupe d'individus que vous ne voyez que 10 minutes par semaine entre deux karaokés de gilets jaunes en fin de course et un taratata de chanteurs en fin de carrière. Alors, oui, bon, je veux bien reconnaître qu'il vous arrive parfois d'être généreux comme un repas de famille. Vous êtes drôle comme un tonton raciste, vous êtes goulayant comme un vin bouchonné, vous êtes gaulé comme une dinde fourrée, mais quand même, disons-le, vous êtes con comme un gigot sans flageolet, hein? En vérité, mon petit bonhomme au nez crochu et au teint basané. La famille, c'est l'antichambre de l'enfer, c'est la résidence principale du malin, c'est la maison de campagne de l'horreur, c'est le QG de l'angoisse, la salle de repos de l'innommable, la cabine d'essayage de Belzébuth. Ah, je sais de quoi je parle, monsieur Guy, au chapitre famille, j'ai compacté le sujet. Ma mère et ma femme, c'est la même personne. Alors oui, c'est comme ça. Oui, monsieur, oui, moi, j'optimise. Comme quoi, une fois de plus, mon tout petit monsieur Guy, eh bien, vous avez dit...
N'importe quoi.
Voilà.
La bande originale avec Nagui.
On est d'accord, Leïla, que tu es en train de colorier le pantalon de Florent Père sur l'affiche de Papa ou Maman.
Mais
on est d'accord.
Chut. Je veux dire, pour une fois qu'on laisse un peu de mystère à la radio, on a déjà filmé, c'est en plus tu racontes ce que je fais.
Tu colories son fut.
J'aime bien gribouiller.
Mais c'est quoi, cette bosse énorme que
Titre. Parlons du prénom un tout petit peu, parce que j'ai adoré cette pièce. C'est vrai qu'elle s'arrête en janvier, mais il est encore temps d'aller la voir, et puis il y aura la tournée, évidemment. Oui. Vous êtes aux côtés de Jonathan Lambert, de Marie-Julie Baupe, Sébastien Castro, Lilou Fogli, et donc vous, Florent, dans ce prénom, cette pièce, c'était pas évident de se dire on va faire une deuxième génération après celle qui avait été portée par Valérie Benguigui et Patrick Bruel et
Jean-Michel Dupuis et Guillaume,
de Tonquédec
et Judith Elzaïn. Bah oui, non, l'héritage était lourd, quoi, mais comme un peu comme dans Papa au moment, on a été très vite mis à l'aise par l'élégance des auteurs et aussi là de Bernard Murat, le metteur en scène, c'est qu'on se rend compte que ils n'ont pas essayé de faire un casting qui ressemble un peu à ceux d'avant pour dire que bon non, ils ont cherché autre chose, d'autres comédiens avec une autre énergie, d'autres personnalités.
Ça faisait combien de temps la pièce a 10 ans, c'est ça ou
la
plus
pièce a 8 ans.
D'accord.
Et le film 6.
Moins. D'accord. Ouais. D'accord. Et c'est pour voir s'il y avait une fraîcheur, si la pièce était trop présente dans l'esprit de ceux qui vont l'applaudir.
On se rend compte que beaucoup de gens l'ont vu, évidemment, même quand.
Moi, j'avais vu quand je vous ai revu là au théâtre et on. On a fini la soirée un peu murgée après. On en mais en tout cas,
quel boss libre vous aviez ce soir.
J'avais, oui, vous avez vraiment des comptes.
Ah, il en avait mis un soir.
Ouais, ce soir, exceptionnel. Ouais.
Pas tous les jours.
C'est un mardi. Quand il va au théâtre.
Ah, c'est ça, c'est
mardi.
Ouais.
Non, mais j'avais oublié en fait la pièce. Il y avait plein de trucs que j'avais oublié dans la pièce.
Parce qu'on retient. Parce que. On retient surtout l'histoire du prénom, en fait, comme le son nom l'indique, mais en fait, le conflit du prénom est réglé en 20 minutes. Après, tout le reste, ce ne sont que les conséquences désastreuses de cette blague, mauvaise blague, quoi. Et ça, on l'oublie un peu plus. Mais, non, mais à jouer, c'est exceptionnel parce que c'est, comme le dit Bernard Murat, c'est un classique contemporain. Hein, c'est-à-dire que, je pense que ça va être rejoué encore et encore, je crois, parce que le thème est universel, intergénérationnel, et il ne vieillit pas.
On entend souvent dire à ce micro que les acteurs aiment le théâtre parce que chaque soir, on rejoue une pièce, on peut améliorer, modifier, rythmer différemment.
Bah c'est vrai, oui, c'est vrai. Moi j'ai découvert, enfin je me suis plus exprimé sur scène que devant sur un plateau de cinéma ou devant une caméra, mais j'aime les deux. Mais effectivement il y a une magie de la scène qui est un spectacle différent tous les soirs, un public différent tous les soirs.
En même temps il y a un rythme
et une obligation de refaire malgré tout du mieux qu'on peut et le plus proche possible de la direction qui nous a été donnée, mais avec une latitude qui nous permet justement de s'amuser tous les soirs, de trouver des nouvelles choses tous les soirs. Quoi.
Il vous est arrivé le trou de mémoire, et le fou rire des.
Non, le trou de mémoire, non.
Et alors, il touche du bois.
Ah ouais, non, parce que là, dans le monologue de fin, par exemple, on dit si j'ai un trou de mémoire. Surtout, non, c'est même pas ça. Le trou de mémoire en one man show me fait pas peur du tout, parce que je sais que je vais faire une impro, que je vais dire au public. Voilà, on est à la maison, on est dans le salon. Là, on peut pas se permettre. Donc, il y a une pression plus grande. Mais non, pas de trou de mémoire. Des fous rires, oui. Oui. Des fous rires, oui, mais on les maîtrise bien quand même. Non, ça va.
Pour l'instant.
Je vous ai amené mon coach personnel, mon coach de vie qui est avec moi.
Mettre en confiance. Ouais.
Qu'avez-vous prévu de faire en 2019? Puisque Papa Maman, c'est en boîte et ça passe ce soir. La pièce s'arrête en janvier et après?
Bah alors, il y a la tournée du prénom de septembre 2019.
Ah
septembre
oui,
2019 septembre, à février 2020. Il y a.
Quoi?
Ouais, dites.
Quoi?
La saison 2 qui est dans les tuyaux.
De Papa ou Maman à la télé?
Tout à fait.
D'accord.
Donc il faudra la tourner à un moment si on veut qu'elle soit diffusée.
C'est pas vrai.
Ça marche comme ça.
C'est pas vrai.
Ça et puis il y a l'écriture d'un
seul
one man show, qui devait être prêt pour, enfin que je devais commencer à roder en février 2019 et que j'ai décalé parce que je manque de temps.
Et le plaisir de partager la scène avec d'autres, vous ferez oublier ouais, vous ferez oublier le seul en scène ou au contraire vous avez envie de garder ces deux qualités?
Ah ouais, non franchement rien ne me fait je n'oublie rien en fait, c'est-à-dire que je m'amuse tout le temps que ça soit à faire une émission de télé, la promo, j'adore faire la promo, être là par exemple, j'adore ça, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Le one man, bah c'est magnifique parce qu'effectivement on est ce qu'on disait tout à l'heure, on est un peu dans notre salon, que c'est-à-dire j'ai l'impression, enfin mon spectacle précédent, j'avais l'impression de me glisser dans ma petite couette bien chaude, je connaissais tout par cœur, la moindre aspiration du public, et vous avez le public pour vous, avec vous, la moindre idée, illumination qui vous passe par la tête, vous avez le droit de le faire et d'arrêter de jouer le spectacle pendant 20 minutes si vous voulez, vous avez le droit, vous pouvez faire 2h30 de spectacle si vous voulez, il y a pas de, c'est la récré totale, il y a une liberté, enfin moi je sens une liberté dans le one man qui est magnifique, et qui demande une forme de rigueur aussi quand même, de toute façon si on veut que le spectacle tourne. Et dans le théâtre, j'ai découvert particulièrement en travaillant avec Bernard Murat, une espèce de rigueur dans la mise en scène, dans la diction, dans il m'a emmerdé avec mon accent, j'ai un léger accent du sud qui persiste sur les, je dis Claude par exemple, le dire Claude.
Ça s'entend beaucoup hein.
Ouais, je sais. Et donc une espèce de rigueur qui est là, ce texte aussi mérite beaucoup de respect et une rigueur, donc. Et pourtant, c'est pas lassant parce qu'il y a les copains en face qui créent quelque chose de nouveau tous les soirs, qu'on va aussi essayer de créer quelque chose de nouveau tous les soirs pour les surprendre. Enfin, tout n'est que plaisir. J'ai énormément de chance.
Est-ce que l'amitié avec Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, qui donc vous ont vu dans Papa ou Maman, vous disent maintenant rejoue notre pièce, va donner une suite dans un autre film ou une autre pièce qu'ils écrivent?
Je ne sais pas.
Déjà là, ils sont en train de tourner un nouveau film,
oui.
Mais vous n'y êtes pas.
Non, alors ça, je suis un petit peu vexé. Ouais.
Ils ont repris Patrick Bruel, dites donc.
Ouais.
Et il y a Fabrice Luchini.
Par contre, ils ont pris Marie Narbonne, qui fait la petite qui fait ma fille.
Ça
s'appelle dans Papa Maman.
Le meilleur reste à venir.
Ouais. Je pense que je serais incapable de vous le pitcher.
Non, puisque vous n'êtes pas.
Non, je ne suis pas. S'ils veulent pas m'aider dans ma carrière, c'est de... ils peuvent le dire.
Non, mais vous ferez la série Le meilleur reste à venir.
À la place de Patrick Bruel.
Le mec, toute sa vie, il fait la suite de
Patrick
Bruel.
Oui, la suite, toujours. Ben là, je sors un album de reprise de Barbara.
Sûr.
Mais les premières répétitions du prénom, ma première réplique, c'est « Putain, offrez-vous un ascenseur ». J'ai tenté pour voir, je fais « Putain, offrez-vous un ascenseur, merde !»
Bien.
Et Bernard Murat m'a dit non. J'arrête tout de suite. Ok, ça va Bernard. Bon, c'est pas grave.
Vous tenez extrêmement bien.
Extrêmement bien, oui.
Avez-vous envie d'écrire un film? Est-ce que la fiction...
Oui, ça fait partie des projets que j'ai, que je développe laborieusement. C'est long, c'est une autre forme d'écriture. Moi, je n'écris jamais seul parce que tout seul devant un ordinateur, je m'atrophie, je me bloque, je me sclérose.
C'est une bricole,
ouais. Dès que j'ai une idée, je me dis mais non, elle est mauvaise. Il faut que j'ai quelqu'un en face pour me dire non, mais elle est bonne, enfin ou elle est mauvaise d'ailleurs en l'occurrence. Mais
et vous aimeriez réaliser aussi ou simplement écrire le scénario?
Ça
aussi, c'est un autre métier. Ouais.
C'est très intéressant. Moi, j'aime bien. Je crois savoir un peu diriger maintenant un petit peu les comédiens, avoir le sens du rythme, tout ça. Après, la réalisation, quand je vois le boulot que c'est une décision par seconde pendant 8 semaines, surtout. Et puis là, il y a une énorme technique pour que ça soit. J'adorerais, c'est quelque chose qui m'attire, mais aujourd'hui, je pense que vraiment, j'en suis pas capable.
Ce soir, 21h sur M6, donc Papa ou Maman, les épisodes 3 et 4, et puis évidemment, jeudi prochain, la fin de la saison. Et tout ça, ça passe en replay. Sinon, au théâtre, Le Prénom, avec Jonathan Lambert, Marie-Julie Baupe, Lilou Fogli, Sébastien, que j'embrasse, ben voilà, ça c'est fait, ouais. Sébastien Castro et Florent Père. Des excuses à présenter, Daniel Morin?
Bien sûr, désolé pour nos auditeurs portugais qui nous écoutent et qui ont été choqués par l'imitation avec l'accent qui a été décliné moitié espagnol, moitié croate. Alors, j'ai eu Cristiano Ronaldo à la pause, il m'a dit c'est pas grave, c'est juste qu'on est une bande de salauds, limite des nazis. Désolé pour Agnès Hurstel qui m'a fait savoir qu'elle avait été vexée, humiliée d'être mélangée, confondue avec Marina Rollman. Pas le prendre mal, tu sais Agnès, Nagui est gâteux, il a l'âge d'être un parent de nos auditeurs. Désolé pour Patrice Martin, 12 titres de champion du monde, 34 titres de champion d'Europe, 26 records d'Europe dans le sport, le ski nautique a été moqué, souillé par Nagui. Nagui vice-champion du monde, Montmartre de pétanque et médaille de bronze de Chabit à Saint-Trope. Désolé pour Nagui, j'ai eu ta femme au téléphone.
Oui.
Nagui, le réparateur est bien arrivé et elle aimerait que tu rentres. Pas tout de suite. Pas de souci, madame. On le retient. On s'en occupe.
Demain, c'est Philippe Découfflet qui sera. Philippe Découfflet qui sera notre invité. Merci, Florent Père.
Merci à vous. Merci beaucoup. C'est un plaisir.
Rien. Demain, bonne journée, bonne matinée. Ça continue maintenant avec Philippe Bertrand et les carnets de campagne.